Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Mercredi 3 mai, bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors la pluie continue pour Montréal, des averses, pluie faible actuellement, autour de 8 degrés, le maximum prévu aujourd'hui, 9 degrés, et des périodes de vent de 30 à 50 km heure. Finalement, la pluie devrait cesser demain matin, on va se le souhaiter, là. Ce sera nuageux quand même avec un maximum de 10. Et le retour du soleil vendredi avec une alternance de passages nuageux et 16 degrés. Et puis la fin de semaine, c'est merveilleux. Là, on prévoit du soleil les deux journées, 20, 21, 22 degrés. Commençons par le dossier des inondations. D'abord, on va aller à Baie-Saint-Paul retrouver notre collègue Philippe-Rodrigue Comeau au sujet, évidemment, des opérations de nettoyage qui sont commencées. Alors, on peut dire, là, Philippe, que le pire est passé, mais il faut quand même nettoyer et reconstruire.
Oui, Paul, les sinistrés hier qui ont ressorti leur pelle d'hiver, mais cette fois, c'était pour se débarrasser d'une espèce de boue vaseuse qui était partout dans les rues autour des rivières qui ont débordé. Une épaisseur de 15-20 cm facilement. C'était épouvantable à voir. Et pendant que les pompiers déambulaient dans certaines rues pour s'assurer que tout était sécuritaire, question de renvoyer du courant, je peux dire que l'électricité, c'était pas du tout dans les plans à court terme de plusieurs sinistrés que j'ai visités dans les zones évacuées. Tout juste l'autre bord du pont Leclerc qui vient qui a été rouvert hier en après-midi. Il y a des maisons qui passeront sûrement pas le test là, pour la suite des choses, assurément. Il y en avait certaines, notamment, qui étaient éventrées là, lors de mon passage.
Bon, parlons aussi peut-être des deux pompiers volontaires là, qui sont toujours introuvables, malheureusement. Ils sont disparus et on n'a pas de traces.
Ouais, leur identité qui a été dévoilée hier, il s'agit de Régis Lavoie, 55 ans, Christopher Lavoie, 23 ans. Ils n'ont aucun lien de parenté. Ce qu'on apprend dans cette histoire-là, c'est qu'ils sont montés à bord d'un véhicule amphibie, un fameux Argo, pour tenter de porter secours aux résidents, mais l'embarcation aurait chaviré en chemin sous les yeux des deux résidents qui ont finalement été sauvés. On peut entendre leur témoignage là depuis hier du côté de Saint-Urbain, qui est toujours inaccessible à partir de Baie-Saint-Paul. C'est encore coupé au niveau de la 138 une fois qu'on traverse le premier pont. Alors, c'est très compliqué. Après le choc, l'adrénaline des premières journées, là, je sens que les gens sont un peu plus ébranlés aussi, alors que le périmètre de recherche a été élargi jusqu'à Baie-Saint-Paul, où il y a un hélicoptère de la SQ qui survole la rivière. Il y a également des plongeurs, des dizaines de policiers de la SQ. On ne lâche pas le morceau, mais pour le moment, toujours aucun indice, aucune trace des deux pompiers volontaires qui ont disparu lundi après-midi.
Merci Philippe, on se reparle tantôt et on peut dire que le premier ministre Legault est attendu donc à Baie-Saint-Paul au cours de la journée. Maintenant, dans Lanaudière, il y a Annie Guillemette qui est déjà sur place. Puis Annie, on peut dire que la situation s'améliore lentement.
Très, très lentement. Ici, Paul, il pleut toujours. Je suis à Sainte-Émilie-de-l'Énergie, où, du côté de la sécurité civile, on nous dit qu'il va y avoir un nouveau mot dans le vocabulaire, la décrue qui est attendue au cours des prochaines heures. Ça va faire du bien. Il y a dans Lanaudière au complet, dans toute la région, une cinquantaine de routes, Paul, qui sont ou inondées ou endommagées. Donc, les travaux ont débuté à certains endroits, mais il y aura beaucoup, beaucoup de boulot, autant pour les municipalités que pour le ministère des Transports ici dans Lanaudière. Et juste à Sainte-Émilie-de-l'Énergie, hier, il y avait 300 résidences ou isolées ou inondées. On a coupé ça de moitié. Donc, ça commence à s'améliorer, mais c'est quand même pas facile ici. On jongle avec l'idée là de lever l'état d'urgence, mais c'est pas fait encore.
Bon, puis là, évidemment, c'est quand même normal après toutes ces journées que la fatigue se fasse sentir.
Ouais, le facteur temps commence à user tout le monde, autant les résidents qui sont isolés que les gens qui travaillent, qui sont à pied d'œuvre. On va organiser aujourd'hui là des allers-retours avec les premiers répondants pour entre autres envoyer des médicaments aux gens isolés. Faut commencer à organiser tout ça. parce que ça se pourrait que ça dure un bon bout de temps, entre autres pour la route 131, qui est toujours impraticable. On a permis, mais vraiment là, en alternance, et c'est vraiment très, très choisi les moments où on passe les véhicules d'urgence seulement. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu accès à leur résidence depuis lundi, donc ça use. Même les autorités, bien sûr, on compte pas beaucoup d'heures de sommeil depuis le début de la semaine. J'ai parlé au maire ce matin, Martin Roux, il était très émotif.
Les gens ont été très, très compréhensifs, puis sont contents de nous voir sur le terrain, là, en action. On n'a pas tardé à réparer nos chemins. Et puis, je vous dirais que je suis très fier de mon équipe municipale. On fait du bon travail, puis dans les municipalités, on est des petites équipes. Et puis, ils ont tenu le fort. On est vraiment fiers d'eux autres.
Oui, et il a raison, je pense. Bien, merci beaucoup, Annie. Annie Guillemette, qui est à Sainte-Émilie de l'Énergie. Et si on peut ajouter quelques notes supplémentaires, on parlait de ces deux pompiers qui sont disparus. Et on voit pas mal la colère des proches. Évidemment, c'est un drame. Les corps n'ont pas été localisés. On a élargi le périmètre de recherche. Mais notamment, un des deux pompiers volontaires, qui est un jeune homme de 23 ans, Christopher, pompier volontaire depuis un an et demi seulement, il savait même pas nager. Et on se demande pourquoi lui et son collègue ont été dépêchés à cet endroit. Est-ce que c'était si urgent? Il y a personne qui était en danger comme tel. Bon, il y avait du courant, l'eau montait. Mais la preuve, c'est que les personnes qu'on allait chercher ont pu être évacuées autrement plus tard sans problème. Alors, je comprends évidemment la peine, la colère des proches qui se demandent évidemment pourquoi ils ont perdu comme ça des membres de leur famille dans des opérations qui étaient peut-être pas nécessaires. Puis on le savait là, qu'il y avait pas beaucoup d'expérience, puis qu'ils savaient pas nager, puis on l'envoie dans un endroit où la rivière est en pleine tourmente. C'est sûr qu'il y aura enquête du coroner là, pour connaître les circonstances exactes. Et je le disais, le premier ministre Legault va se rendre. Et hier, il s'est engagé à investir, les chiffres, faut toujours faire bien attention, là, 2 milliards dans des infrastructures municipales, dans des travaux pour préparer les villes à ces températures extrêmes. Donc, des phénomènes qu'on voit régulièrement, les inondations. Mais regardez la pluie, la quantité qui est tombée dans les secteurs les plus touchés. André Quentin d'Environnement Canada nous disait la quantité, là, ça a grimpé jusqu'à 60 mm de pluie d'un coup. Et on va en voir de plus en plus souvent, ces fameux épisodes. D'ailleurs, ce matin, on a un rapport de l'Organisation Météo Mondiale concernant le retour de El Niño, qui devrait arriver à partir du mois de juin-juillet et être présent durant un an. L'an passé, partout dans le monde, on a eu des températures plus élevées et on a même battu des records de chaleur. Il y a des villes où on a atteint du 40 degrés, alors qu'on n'avait jamais vu le mercure monter aussi haut. Et pourtant, El Niño n'était pas un facteur. Et là, ce qu'on découvre finalement, c'est que, ce sont en tout cas les avis des experts, qu'il faut s'attendre à un réchauffement plus important des températures, ajouté au réchauffement causé par les gaz à effet de serre. Et il y a des endroits dans le monde qui seront plus touchés. D'ailleurs, je prends le cas de l'agence météo américaine qui considère que 90% les chances qu'on soit touché par ce phénomène avec des hausses de température. Puis quand vous regardez où ça se passe, puis on peut s'inspirer des autres années, on pense que l'Amérique du Sud, le sud des États-Unis, la Californie notamment, toute la corne de l'Afrique, l'Asie centrale, pourrait se retrouver avec des pluies diluviennes, des inondations, des glissements de terrain. Et à l'inverse, on pourrait se retrouver avec des périodes de sécheresse, par exemple en Australie. Tout indique que l'Amérique du Nord, là je parle pas du sud des États-Unis, mais plus au nord, serait moins touchée, de même que les Caraïbes. Alors, c'est pas confirmé, c'est pas une prévision là, très, très précise, mais ce sont des estimés qui sont faits avec quand même des données assez claires de ce qu'on a vécu dans les 20, 25 ou 30 dernières années. Très bien, on va aller voir ce qui se passe en Serbie. Il y a 8 élèves d'une école primaire qui ont été tués, de même qu'un gardien à l'école. Et le suspect a 14 ans, il a été arrêté. Donc, ça s'est passé dans une école primaire très tôt ce matin, heure locale,
à Belgrade. Ça a été confirmé par le ministère de la Serbie. Il semble également que le professeur a été blessé dans la classe et tout le monde a été pris en charge par les équipes de secours. Et selon les premières informations recueillies par les policiers, l'arme appartiendrait au père du suspect. D'autres détails à venir donc plus tard. De retour ici, sondage ce matin léger, TVA. Un coup de sonde tout de suite après l'annonce faite à Québec de l'abandon du troisième lien. Puis on sait là que ça grogne à Québec autour de ça. Et surtout que les explications, j'écoutais encore hier la ministre Geneviève Guilbeault qui dit, ben on a reçu un rapport préliminaire au mois de janvier, rappelle que l'élection était quand même à l'automne, qui nous disait que le projet tenait plus la route. Mais on a voulu attendre d'avoir un rapport complet. Alors, tout ça pour dire que ça fait un bout, là, que la décision est prise. Puis évidemment, ils disent, on n'a pas menti, là, parce que pendant qu'on faisait campagne, on croyait que le projet était viable. Bon, alors ça donne quoi le portrait? D'abord, pour la région de Québec, la CAQ, selon le sondage, se retrouve à 26 %. C'est le Parti conservateur d'Éric Duhem qui est en avance à 28. Marge d'erreur et tout ça, mais disons qu'ils sont nez à nez. Ce qui est tout un changement. Au dernier sondage, c'était 40 % pour la CAQ. C'est donc une baisse de 14 points et une augmentation de 8 pour le parti d'Éric Duhem. Pour le Parti québécois, je m'excuse. C'est le Parti québécois qui est en avance avec 28 % et on se retrouve avec 26 pour la CAQ et les conservateurs d'Éric Duhem à 23. Eux aussi ont profité. Donc, à Québec, là, ceux qui ont gagné, ceux qui ont fait le plein, c'est le Parti québécois et le Parti conservateur, mais surtout le Parti québécois. Et au niveau national, c'est là que c'est intéressant, la CAQ connaît son plus mauvais score depuis sa première victoire électorale. C'est une perte de 4 points. Ils sont à 36. C'est une très forte avance. Ils ont 14 points d'avance sur le Parti québécois qui arrive deuxième. On peut penser que c'est un transfert de la CAQ vers le PQ, donc de 36 à 22. Les autres partis bougent pas tellement. Québec solidaire à 16, les libéraux à 14 et Éric Duhem, lui, est à 10 %. Alors, il y a Jean-Marc Léger qui dit que c'est comme un premier avertissement au gouvernement. Et à Québec, c'est un gros avertissement. Ailleurs, ça n'a pas eu l'effet peut-être qu'on pensait, mais quand même, là, c'est un message. Puis on sait que les caquistes s'en vont en congrès, alors on va en jaser tantôt avec Jonathan Trudeau. Dans The Gazette ce matin, on parle de la situation dans les urgences. On apprend, puis c'est pas quantifié, là, c'est dur à dire, mais qu'il y a un certain nombre de médecins qui ont décidé de quitter les salles d'urgence. Surcharge de travail, trop de pression, des urgences qui débordent avec des taux d'occupation de 150-200 %. Le docteur Gilbert Boucher, qui est le président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence, dit que l'effet, ben, on peut le deviner. Ceux qui restent travaillent plus longtemps, les quarts sont prolongés et ils ont plus de travail. Et ça peut avoir un effet aussi sur des médecins. Et ceux qui quittent, là, ils quittent pas la médecine. Ils décident de ne plus pratiquer dans les salles d'urgence, puis ils vont, par exemple, retourner en cabinet dans les groupes de médecine familiale. Et tout ça arrive alors que l'été est à nos portes, puis l'été, ça veut dire les vacances, puis ça veut dire aussi probablement pénurie accentuée. Je sais que le ministre Christian Dubé, quand il est venu ici, il dit très conscient de ça, là, que l'été, c'est toujours un enjeu. Mais donc, il y a une forme d'exode de médecins qui décident de quitter l'urgence. Royal Vic a été particulièrement touché. Mais on a beau là, essayer de trouver des solutions là pour... Vous avez encore des gens qui, malheureusement, poirotent sur des civières à l'urgence parce qu'on n'est pas capable de dégager des lits et de les monter. Puis ça arrive parfois qu'on les monte, là. On les fait disparaître des statistiques d'occupation de l'urgence, mais c'est pas tellement mieux. Autre dossier, puis il faut faire attention, là, c'est dans Le Devoir, sur le nombre de fugues d'ados dans les centres jeunesse. C'est en augmentation. Donc, selon les chiffres obtenus par Le Devoir, quand vous regardez le nombre de fugues, il y en a eu pas loin de 6 000 dans les différents types d'hébergement de la DPJ. Ce qui est beaucoup plus que les dernières années. Il y a eu, évidemment, l'effet du confinement. Alors là, les chiffres sont plus bas. Le ministre Lionel Carman, pas capable de documenter, mais lui prétend que ça va mieux. Il y a peut-être plus de fugues, mais ils partent moins longtemps, donc ils reviennent plus vite. Et on se souvient de toute la saga de Laval, alors qu'il y avait des fugues. Puis quand on parle de fugues de jeunes filles, ben c'est un niveau d'inquiétude qu'elles soient récupérées par des proxénètes. Puis on connaît évidemment la suite avec de la prostitution. Mais il semble en tout cas que c'est peut-être un peu mieux. Et c'est André Lebon qui avait enquêté. Puis il n'a pas dit qu'il faut barrer les portes de tout le monde, là, mais qu'il faut peut-être avoir un meilleur contrôle, mais surtout créer un environnement qui est plus agréable pour les ados qui sont gardés comme ça dans ces milieux d'hébergement. On parlait de médecine tantôt, là, puis des salles d'urgence. Québec qui confirme aller en appel d'offres pour des chirurgies. Appel d'offres où on pense qu'il y a une vingtaine d'établissements privés, de cliniques, là, de centres médicaux qui vont lever la main. Et puis il y a des critères, puis tout ça fait suite aussi à cette étude menée par l'IRIS qui disait que le privé, ça coûtait plus cher. Ce matin, Francis Veil ramène ça dans une perspective plus juste où il dit que c'est pas vrai que le privé, c'est plus cher. Puis je vais vous dire personnellement, là, quand je vois les études passées de l'IRIS ou de l'Institut économique de Montréal, je touche pas à ça beaucoup. Pourquoi? Parce que ce sont deux lobbies et tu peux deviner la conclusion de l'étude avant même de l'avoir lue. Tu sais, ça penche à gauche ou ben non à droite. IRIS ou Institut économique. Alors, Francis Veil nous montre quoi? Que dans certains cas, oui, ça peut coûter plus cher, puis dans d'autres cas, ça coûte moins cher. Parce qu'il faut calculer, par exemple, les infrastructures, les avantages sociaux. Et en bout de ligne, il faut ramener ça à la préoccupation du patient. Si vous êtes sur une liste d'attente, vous voulez quoi? Vous voulez vous faire opérer le plus vite possible? Les meilleures conditions, puis vous voulez pas payer. Et les infirmières qu'on retrouve dans ces centres sont souvent des infirmières qui seraient en agence, qui ont quitté le réseau, qui veulent pas retourner dans le réseau. Donc, si on est capable de baisser la liste d'attente, de vous permettre d'être opéré, sérieusement, l'enjeu de privé-public, puis la guerre des chiffres, personnellement, ça me laisse de froid. Et là, on se retrouve avec des appels d'offres, puis ça va être plus serré. On peut pas garantir des profits. Puis là, c'est aux centres médicaux de déguiser le crayon puis d'arriver avec des propositions intéressantes. Puisqu'on parle de réforme, Bernard Drinville va nous arriver avec des changements. Et ce sera annoncé possiblement demain. Plus de pouvoir au ministre et la création d'un institut national d'excellence en éducation pour déterminer les méthodes d'enseignement. La presse donc donne ses précisions en disant que les syndicats de profs sont pas toujours très chauds à cette idée. Mais attendons de voir exactement ce qu'il va annoncer. Puis il y a eu des discussions hier, là, c'était l'étude des crédits. Et d'abord, il n'y a pas l'intention de couper le financement des écoles dites religieuses. Et il réfléchit à la possibilité de permettre, d'interdire l'utilisation du téléphone en classe. T'sais, il dirait aux étudiants, pas de téléphone dans les salles de cours. Pas comment ça serait perçu. C'est entre autres le député Pascal Bérubé qui a poussé ça. Puis ce matin, ben rapidement, il y a encore des problèmes à la Société d'assurance automobile. Je sais que ça marche pour certains, mais pour beaucoup, il y a encore des ratés. Puis la prise de rendez-vous demeure extrêmement difficile. Puis c'est toujours les demi-vérités. T'sais. C'est pas le système qui est le problème, M. Arcan, c'est l'accès. Mais je m'excuse, là. Quand t'as pas accès à un système, c'est le système qui est en cause. Puis quand on me dit, mais là, 50% des centres offrent des rendez-vous. Tu sais, c'est toujours, 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 toujours des phrases creuses qui veulent, en fait, qui n'ont comme objectif que de masquer la réalité. Ils l'ont échappé. Puis là, le nouveau président, qui est en commission, dit, ben moi, excusez, je viens d'arriver. Je peux pas vraiment répondre à vos questions. Je vous le dis, là, c'est comme souvent mentionne mon ami Luc, la commedia dell'arte, avec les clowns, les bouffons et les phrases creuses qui, malheureusement, n'éclairent pas et surtout servent à masquer ce qui se passe vraiment. Dans ce cas-là, c'est la Société d'assurance auto.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Plusieurs voix depuis quelque temps se font entendre pour nous mettre en garde sur les dangers potentiels et même réels de l'intelligence artificielle. Par exemple, vous avez un de ceux qu'on considère comme probablement une des sommités dans le domaine, Jeffrey Hinton, qui a quitté Google. Il a dit dans quelques entrevues qu'il démissionnait, entre autres, pour retrouver la liberté de parole. Et pour dire, j'ai la responsabilité, parce que j'ai participé activement au développement de l'intelligence artificielle, de mettre en garde les gens sur les dangers. Quand on regarde ce qui s'est passé en 5 ans, puis ce qui s'en vient pour les prochaines années, il y a de quoi s'inquiéter. Et ça dépasse largement là ce qu'on voit comme exemple, c'est-à-dire de recréer de la musique, de recréer des lieux, des scènes, des images. Et un autre expert qui a été un des premiers où ça se fait entendre avec d'autres, est avec nous ce matin, Yoshua Benjo. Monsieur Benjo, bonjour.
Bonjour.
D'abord, quand vous voyez Monsieur Hinton, que vous connaissez, là, quitter Google pour dire « je veux mettre les gens en garde sur ce qui s'en vient », comment vous interprétez son geste, sa décision?
Jeff Hinton, c'est quelqu'un de très loyal. En tant qu'employé Google, il voulait pas dire des choses qui pourraient nuire à la compagnie. Mais à part ça, il est quand même clair qu'il a trouvé que Google a agi de manière responsable jusqu'à présent dans ce dossier.
Mais le message que les gens doivent retenir avec cette sortie, avec ce que vous dites, la lettre que vous avez signée, ce serait quoi pour les gens qui écoutent ce matin? C'est quoi le message?
Mais le message le plus important, c'est qu'il faut qu'on accélère l'encadrement de l'intelligence artificielle. La réglementation, les lois, les accords internationaux, puis ça prend du temps, toutes ces choses-là. Et puis, on peut pas attendre un autre 10 ans. Il y a des utilisations extrêmement positives de l'IA, mais ça peut aussi être mal utilisé. Et donc, il faut absolument qu'on sorte du Far West dans lequel on est aujourd'hui.
Quand vous dites que ça peut être mal utilisé, quels sont les exemples que vous pouvez nous donner?
Avec l'arrivée de ChatGPT, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que ces systèmes-là peuvent se faire passer pour des personnes. Parce qu'on peut interagir par texte, là, éventuellement, même en parlant, là, parce que c'est rendu, la technologie est rendue là, et avoir l'impression qu'on parle à un autre être humain, même à une personne qu'on connaît, là, si cette personne a une trace sur Internet. Donc, ça pourrait être utilisé pour mal informer, pour influencer les gens au niveau politique, pour des cyberattaques. Enfin bon, il y a beaucoup de dangers comme ça dont on doit se préoccuper.
Je voyais par exemple des images d'événements qui n'ont jamais eu lieu, là, qui ont été créés pour montrer, par exemple, des affrontements. Ça peut, ce qu'on appelle les fameuses fausses nouvelles, là, on peut en générer beaucoup, ouais, avec ça.
Exactement. Avant, les gens faisaient ça déjà, mais c'était à la mitaine. Donc là, ça peut se faire de manière, comment on pourrait dire, industrielle. Et de manière même personnalisée, là. Vous pouvez imaginer qu'il y aurait une image qui est générée pour vous convaincre, vous, là. Une image et un texte et une interaction. Donc ça, c'est quand même inquiétant.
Qui sont les joueurs qui poussent pour que ça demeure le Far West?
Ben, c'est un peu normal que les entreprises, surtout celles qui ont investi beaucoup là-dedans, craignent un encadrement qui les ralentisse, qui leur met des bâtons dans les roues. C'est comme ça dans tous les domaines d'activité. Mais on a développé de la réglementation à peu près dans tous les secteurs industriels pour protéger le public. C'est normal. Mais dans le domaine de l'informatique, il y a très, très peu de réglementation. Alors, je pense qu'il est temps qu'on se mette à jour.
OK. Quand vous regardez l'évolution, par exemple, des 5 dernières années, puis que vous tentez de projeter un peu sur ce qui s'en vient, est-ce que c'est une accélération là, vraiment ultra rapide de la technologie? On n'a rien vu encore?
C'est très difficile à dire, mais ce qu'on sait, ce qui est clair, c'est que les progrès, les avancées qu'on a vues dans les derniers mois, là, avec ChatGPT et autres, n'était pas attendu. On pensait, ça a émergé un peu de manière qu'on n'envisageait pas. Est-ce que ça veut dire que ça va encore avancer un rythme qu'on n'entrevoit pas? Ben, c'est personne n'a de boule de cristal, mais moi, ça me dit que il faut qu'on soit plus prudent que ce qu'on a été jusqu'à présent.
Je regardais l'entrevue hier de M. Hinton qui dit que, en tout cas, une de ses craintes les plus importantes, c'est que la poussée de l'intelligence artificielle amène des pertes d'emplois, que les humains vont perdre des jobs et remplacer par la machine.
Oui, c'est quelque chose que les économistes discutent depuis des années et des années. Il y a plein d'études qui ont été faites, de scénarios, de quel genre de jobs sont plus à risque. Mais à vrai dire, il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur comment les choses vont évoluer. Et c'est pour ça que moi, je dis aux gens, essayez de vous former pour être flexible, pour pouvoir vous adapter à des changements dans le marché de l'emploi. Pas devenir un spécialiste d'une job qui pourrait disparaître dans 5 ans.
Et quand vous parlez d'intervention pour faire un cadre législatif, évidemment, il faut que ça soit à l'échelle internationale. C'est pas, disons, ouais, que l'intelligence artificielle, ça dépasse les frontières, là.
Exactement. Puis dans une situation de tension internationale comme on vit en ce moment avec la Russie, la Chine, etc., c'est d'autant plus important qu'on se coordonne. Puis ce sera pas facile. Mais faut se rappeler, par exemple, que les traités internationaux sur le nucléaire, ça a été fait en pleine guerre froide. Donc on est capable, disons, d'agir dans ce sens-là. Est-ce qu'on va réussir? Ben, il faut essayer, c'est ça.
Avez-vous eu des échos depuis votre sortie, depuis la lettre ouverte que vous avez co-signée?
Ben, je vais vous dire, quand j'ai signé cette lettre-là, vraiment, je m'attendais pas à une réponse aussi forte du public, des médias, de la communauté scientifique. Je pense que l'écho, il est là. C'est que les gens ont commencé à utiliser ChatGPT, se sont rendus compte à quel point l'intelligence artificielle avait avancé. Et c'est normal de réagir comme ça, là. Mais je m'y attendais pas, parce que j'en ai signé d'autres des lettres avant. Là. Ça n'avait pas créé autant de commotion.
Monsieur Bengio, merci d'avoir pris ce temps avec nous.
Avec plaisir.
Au revoir. Joshua Bengio est fondateur et directeur scientifique de MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Et ce monsieur Hinton, Jeffrey Hinton, c'est un Canadien de 75 ans qui a été un des précurseurs dans le domaine. Et on le surnomme d'ailleurs le parrain de l'intelligence artificielle. Et dans les entrevues qu'il a données, New York Times entre autres, il disait que c'était un travail qu'il regrettait jusqu'à un certain point, bien qu'il ait mis tous les bémols possibles, mais que c'était important de sonner l'alarme. Il est devenu un lanceur d'alerte, si vous voulez, avec d'autres comme M. Bengio, en disant, si vous pensez que ce qu'on voit actuellement, c'est sérieux, c'est une chose. Attendez ce qui s'en vient. Et là, on va pousser plus loin la technologie et de créer des fausses nouvelles, de faire de la propagande, comme disait M. Bengio, qu'on fait à la mi-temps actuellement, ou en tout cas de façon très rudimentaire, mais on va passer à une étape supérieure. Commençons par le dossier des inondations. D'abord, on va aller à Baie-Saint-Paul retrouver notre collègue Philippe-Rodrigue Comeau au sujet, évidemment, des opérations de nettoyage qui sont commencées. Alors, on peut dire, là, Philippe, que le pire est passé, mais il faut quand même nettoyer et reconstruire.
Oui, Paul, les sinistrés hier qui ont ressorti leur pelle d'hiver, mais cette fois, c'était pour se débarrasser d'une espèce de boue vaseuse qui était partout dans les rues autour des rivières qui ont débordé. Une épaisseur de 15-20 cm facilement, c'était épouvantable à voir. Et pendant que les pompiers déambulaient dans certaines rues pour s'assurer que tout était sécuritaire, question de renvoyer du courant, je peux dire que l'électricité, c'était pas du tout dans les plans à court terme de plusieurs sinistrés que j'ai visités dans les zones évacuées. Tout juste l'autre bord du pont Leclerc qui a été rouvert hier en après-midi. Il y a des maisons qui passeront sûrement pas le test là, pour la suite des choses, assurément. Il y en avait certaines, notamment, qui étaient éventrées là, lors de mon passage.
Bon, parlons aussi peut-être des deux pompiers volontaires là, qui sont toujours introuvables, malheureusement. Ils sont disparus et on n'a pas de traces.
Oui, leur identité qui a été dévoilée hier, il s'agit de Régis Lavoie, 55 ans, Christopher Lavoie, 23 ans. Ils n'ont aucun lien de parenté. Ce qu'on apprend dans cette histoire-là, c'est qu'ils sont montés à bord d'un véhicule amphibie, un fameux Argo, pour tenter de porter secours aux résidents, mais l'embarcation aurait chaviré en chemin sous les yeux des deux résidents qui ont finalement été sauvés. On peut entendre leur témoignage là depuis hier du côté de Saint-Urbain, qui est toujours inaccessible à partir de Baie-Saint-Paul. C'est encore coupé au niveau de la 138 une fois qu'on traverse le premier pont. Alors, c'est très compliqué. Après le choc, l'adrénaline des premières journées, là, je sens que les gens sont un peu plus ébranlés aussi, alors que le périmètre de recherche a été élargi jusqu'à Baie-Saint-Paul, où il y a un hélicoptère de la SQ qui survole la rivière. Il y a également des plongeurs, des dizaines de policiers de la SQ. On ne lâche pas le morceau, mais pour le moment, toujours aucun indice, aucune trace des deux pompiers volontaires qui ont disparu lundi après-midi.
Merci Philippe, on se reparle tantôt et on peut dire que le premier ministre Legault est attendu donc à Baie-Saint-Paul au cours de la journée. Maintenant, dans Lanaudière, il y a Annie Guillemette qui est déjà sur place. Puis Annie, on peut dire que la situation s'améliore lentement.
Très, très lentement. Ici, Paul, il pleut toujours. Je suis à Sainte-Émilie-de-l'Énergie, où du côté de la sécurité civile, on nous dit qu'il va y avoir un nouveau mot dans le vocabulaire, la décrue, qui est attendue au cours des prochaines heures. Ça va faire du bien. Il y a dans Lanaudière au complet, dans toute la région, une cinquantaine de routes, Paul, qui sont ou inondées ou endommagées. Donc, les travaux ont débuté à certains endroits, mais il y aura beaucoup, beaucoup de boulot, autant pour les municipalités que pour le ministère des Transports ici dans Lanaudière. Et juste à Sainte-Émilie-de-l'Énergie, hier, il y avait 300 résidences ou isolées ou inondées. On a coupé ça de moitié. Donc, ça commence à s'améliorer, mais c'est quand même pas facile ici. On jongle avec l'idée là de lever l'état d'urgence, mais c'est pas fait encore.
Bon, puis là, évidemment, c'est quand même normal après toutes ces journées que la fatigue se fasse sentir.
Ouais, le facteur temps commence à user tout le monde, autant les résidents qui sont isolés que les gens qui travaillent, qui sont à pied d'œuvre. On va organiser aujourd'hui là des allers-retours avec les premiers répondants pour entre autres envoyer des médicaments aux gens isolés. Faut commencer à organiser tout ça parce que ça se pourrait que ça dure un bon bout de temps, entre autres pour la route 131 qui est toujours impraticable. On a permis, mais vraiment là en alternance et c'est vraiment très très choisi les moments où on passe les véhicules d'urgence seulement. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu accès à leur résidence depuis lundi, donc ça use. Même les autorités, bien sûr, on compte pas beaucoup d'heures de sommeil depuis le début de la semaine. J'ai parlé au maire ce matin. Martin Roux, il était très émotif.
Les gens ont été très, très compréhensifs, puis sont contents de nous voir sur le terrain, là, en action. On n'a pas tardé à réparer nos chemins. Et puis, je vous dirais que je suis très fier de mon équipe municipale. On fait du bon travail, puis dans les municipalités, on est des petites équipes. Et puis, ils ont tenu le fort. On est vraiment fiers d'eux autres.
Oui, et il a raison, je pense. Bien, merci beaucoup, Annie. Annie Guillemette, qui est à Sainte-Émilie de l'Énergie. Et si on peut ajouter quelques notes supplémentaires, on parlait de ces deux pompiers qui sont disparus. Et on voit pas mal la colère des proches. Évidemment, c'est un drame. Les corps n'ont pas été localisés. On a élargi le périmètre de recherche. Mais notamment, un des deux pompiers volontaires, qui est un jeune homme de 23 ans, Christopher, pompier volontaire depuis un an et demi seulement, il savait même pas nager. Et on se demande pourquoi lui et son collègue ont été dépêchés à cet endroit. Est-ce que c'était si urgent? Il y a personne qui était en danger comme tel. Bon, il y avait du courant, l'eau montait, mais la preuve, c'est que les personnes qu'on allait chercher ont pu être évacuées autrement plus tard sans problème. Alors, je comprends évidemment la peine, la colère des proches qui se demandent évidemment pourquoi ils ont perdu comme ça des membres de leur famille dans des opérations qui étaient peut-être pas nécessaires. Puis on le savait là, qu'il n'y avait pas beaucoup d'expérience, puis qu'il ne savait pas nager, puis on l'envoie dans un endroit où la rivière est en pleine tourmente. C'est sûr qu'il y aura enquête du coroner là, pour connaître les circonstances exactes. Et je le disais, le premier ministre Legault va se rendre. Et hier, il s'est engagé à investir. Les chiffres, faut toujours faire bien attention, là. 2 milliards dans des infrastructures municipales, dans des travaux pour préparer les villes à ces températures extrêmes. Donc, des phénomènes qu'on voit régulièrement, les inondations. Mais regardez la pluie, la quantité qui est tombée dans les secteurs les plus touchés. André Quentin d'Environnement Canada nous disait la quantité, là, ça a grimpé jusqu'à 60 mm de pluie d'un coup. Et on va en voir de plus en plus souvent, ces fameux épisodes. D'ailleurs, ce matin, on a un rapport de l'Organisation Météo Mondiale concernant le retour de El Niño, qui devrait arriver à partir du mois de juin-juillet et être présent durant un an. L'an passé, partout dans le monde, on a eu des températures plus élevées et on a même battu des records de chaleur. Il y a des villes où on a atteint du 40 degrés, alors qu'on n'avait jamais vu le mercure monter aussi haut. Et pourtant, El Niño n'était pas un facteur. Et là, ce qu'on découvre finalement, c'est que, ce sont en tout cas les avis des experts, qu'il faut s'attendre à un réchauffement plus important des températures, ajouté au réchauffement causé par les gaz à effet de serre. Et il y a des endroits dans le monde qui seront plus touchés. D'ailleurs, je prends le cas de l'agence météo américaine qui considère que 90% les chances qu'on soit touché par ce phénomène avec des hausses de température. Puis quand vous regardez où ça se passe, puis on peut s'inspirer des autres années, on pense que l'Amérique du Sud, le sud des États-Unis, la Californie notamment, toute la corne de l'Afrique, l'Asie centrale, pourrait se retrouver avec des pluies diluviennes, des inondations, des glissements de terrain. Et à l'inverse, on pourrait se retrouver avec des périodes de sécheresse, par exemple en Australie. Tout indique que l'Amérique du Nord, là je parle pas du sud des États-Unis, mais plus au nord, serait moins touchée, de même que les Caraïbes. Alors, c'est pas confirmé, c'est pas une prévision là, très très précise, mais ce sont des estimés qui sont faits avec quand même des données assez claires de ce qu'on a vécu dans les 20, 25 ou 30 dernières années.
L'essentiel de Paul Arcan.
Maintenant, à Montréal, l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie va mettre en place une nouvelle grille de tarifs pour le stationnement, donc les fameuses vignettes de stationnement. Ça va entrer en vigueur dès cet été et en fait, il y a comme deux critères principaux, c'est-à-dire le type de véhicule que vous avez et la grosseur du véhicule que vous avez. Le maire de l'arrondissement est avec nous, François Limoges. Monsieur Limoges, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Peut-être d'abord résumer un peu, là, je viens de dire les principes, là, mais concrètement, ça veut dire quoi là, pour quelqu'un qui a un véhicule qui stationne sur rue dans Rosemont à partir de l'été?
Oui, quelqu'un qui a une vignette. C'est qu'autrefois, on tarifait à la cylindrée, c'est-à-dire selon la taille du moteur, selon la corrélation que généralement, plus un moteur était gros, plus le véhicule était gros. Ce n'est plus le cas. Il y a des véhicules hybrides, on le sait, il y a des turbocompressés, il y a toutes sortes de moteurs qui font qu'on peut avoir des petits moteurs dans des gros véhicules. Alors, pour rester cohérent avec l'espace que les gens prennent sur le domaine public, on vient tarifier la masse, le poids du véhicule qui est indiqué sur le certificat d'immatriculation. Et il y a quatre catégories de poids. Alors, c'est un changement tarifaire, c'est pas une augmentation de tarif. C'est vraiment un changement pour refléter la réalité de la taille que le véhicule occupe sur le domaine public.
Bien, vous dites que ce n'est pas une augmentation. Il y a quand même plus de revenus que vous allez faire. Il y a des gens qui vont payer plus cher.
Il y a un tiers des gens qui vont avoir une baisse de tarif. Il y a deux tiers qui vont avoir une augmentation d'entre 5 et 40 $ par année. Alors, c'est pas une augmentation tarifaire. On n'a pas fait ça pour aller chercher des revenus. On a fait ça pour que ça reflète la réalité de la taille que les gens occupent sur le domaine public. Puis on l'a fait aussi, on s'en cachera pas, pour lancer une conversation nationale sur la taille des véhicules.
OK. Est-ce que vous avez une idée du parc de voitures dans Rosemont-la-Petite-Patrie?
Oui, on l'a. On a fait, pour faire ce règlement-là, on a fait un recensement complet. Et là, j'ai pas les chiffres sous les yeux. On peut vous l'envoyer, mais oui, on a le portrait complet de toutes les immatriculations.
OK, mais ça veut dire...
Et je peux vous dire, avec ces chiffres-là, puis avec l'étude de Polytechnique aussi sur laquelle on s'est basé, l'accroissement de la taille des véhicules des 20 dernières années, ça a fait disparaître, tenez-vous bien, juste dans Rosemont, là, 4 000 à 10 000 places de stationnement. Alors, les véhicules grossissent sans cesse. Les constructeurs ne se restreignent pas hein, dans la taille des véhicules. Les véhicules sont toujours plus gros. Ça prend toujours plus de place sur la route, mais sur le stationnement aussi. On perd de l'espace.
OK, je vous soumets quelques questions de vos citoyens qui m'ont écrit.
Allez-y.
Premier cas, famille de 4 personnes, c'est pas de notre faute, notre véhicule est peut-être plus gros, on n'en a pas 2. Faites-vous des exceptions pour les familles, par exemple, de 4?
On fait des exceptions pour les gens à faible revenu. Mais pour cette famille-là, leur véhicule était probablement déjà dans la classe supérieure de vignette. Fait qu'on parle d'une augmentation d'à peu près 5-20 $ par année probablement. C'est pas un, comme je vous dis, c'est pas une augmentation de tarif. Leur véhicule était déjà tarifé selon la cylindrée. Alors, à moins que ce soit un très gros véhicule électrique, puis ça, c'est moins de 1% des gens qui en ont. Là, on parle vraiment des très gros véhicules électriques. S'ils avaient un véhicule hybride ou à essence, ils payaient déjà. S'ils avaient un véhicule à essence, ils payaient déjà le tarif supérieur. Alors, ça va rester le même prix.
OK. L'autre question, parce que c'est des gens visiblement qui n'ont pas de vignette ou peut-être des nouveaux là dans votre arrondissement.
Oui.
Est-ce que la vignette garantit une place?
Généralement, on vend des vignettes pour que les gens aient une place, oui. C'est-à-dire que si on vend beaucoup de vignettes sur une rue, on va agrandir la zone pour que les gens soient presque assurés d'avoir une place. On vend 1,5 vignettes par place de stationnement.
Est-ce que
pour s'assurer que les gens ne payent pas pour rien.
OK. Est-ce que toutes les rues de l'arrondissement sont touchées? Dans le sens, est-ce que si je stationne puis j'habite le coin, ça me prend une vignette? Toutes les zones, toutes les rues sont zonées?
Non, pas du tout. Puis même sur les rues qui sont zonées, c'est généralement un quart entière de la rue qui l'est. Il y a de la place pour les visiteurs, il y a de la place pour la visite. C'est vraiment les vignettes pour résidents.
OK. Là, c'est un peu en parallèle, c'est une auditrice qui m'écrit ça. Est-ce que c'est vrai qu'il y a encore des rues commerciales où il n'y a pas de parcomètre?
Sont de plus en plus rares, mais il en reste quelques-unes. Je pense à l'Est de Beaubien, Bélanger. Bélanger, il n'y a pas des parcomètres à la grandeur.
Est-ce que vous comptez en mettre?
L'Agence de mobilité durable avec qui on travaille, qui est l'agence qui travaille pour la ville de Montréal au complet, a un plan, oui, effectivement, pour qu'on mette des parcomètres sur les rues commerciales.
OK. Je vous amène.
On est très ouvert à ça.
Oh, j'imagine. Pour aller chercher des revenus, c'est sûr. Mais,
non, ça fait rouler les places. Les commerçants sont d'accord.
Oui, non, je comprends à certaines heures, mais on ne repartira pas la discussion sur le centre-ville à 23 heures. Pas certain que ça fait rouler tant que ça les places. Mais ça, c'est autre chose. Mais l'autre question qui revient souvent. Avec les véhicules électriques, est-ce qu'il y a une réflexion? Est-ce que c'est une stratégie sur l'implantation des bornes? Des gens qui me disent, on n'a pas besoin de charger tous les jours, là, mais quand même, plus de véhicules électriques, est-ce que ça veut dire que ça va être compliqué de, quand on stationne sur rue, de pouvoir charger?
OK. L'arrondissement n'implante pas de bornes. Ça, c'est vraiment le service de la mobilité de la ville de Montréal, mais nous, on est ouvert à l'électrification des véhicules. Puis dans notre règlement, d'ailleurs, on a mis des catégories différenciées pour les véhicules électriques, c'est-à-dire qu'on a pris en compte que les véhicules électriques sont par nature plus lourds, ils sont pas dans la même catégorie que les véhicules à essence. Alors, avec un véhicule électrique standard, vous tombez facilement dans la catégorie 1 ou 2 pour les vignettes-là. Moi, je vous ramène à notre règlement d'arrondissement parce qu'on n'est pas en charge des bornes chez
nous. Non, mais si vous n'êtes pas en charge, quand même, vous êtes le maire de l'arrondissement, vous devez avoir une préoccupation sur ça va ressembler à quoi dans 10 ans, par exemple?
Ah, mais on est ouvert aux bornes, puis on va aller plus loin que les bornes. On doit avoir une réflexion comme Ville de Montréal sur comment, au-delà des bornes, comment on permet aux gens qui sont propriétaires dans des condos qui n'ont pas de stationnement privé, qui stationnent sur rue, de recharger la nuit. Il va falloir se pencher sur cette question-là, c'est important.
Parfait. Merci, M. Limoges.
Un plaisir,
M. Arcand. Bonne journée. François Limoges est le maire de l'arrondissement Rosemont-La Petite Patrie. Alors, ça entre en vigueur cet été, puis j'imagine qu'on va voir à peu près le même genre d'approche dans d'autres arrondissements.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Parlons maintenant du projet de loi C-21 sur le contrôle des armes à feu. Je ne suis pas un expert et sérieusement, j'essaie de comprendre exactement les amendements qui ont été déposés.
clairement qu'est-ce que ça veut dire. Et là, j'entends deux groupes. Poli se souvient, qui est outré, qui a l'impression d'avoir été floué par le gouvernement, qui dit d'ailleurs que Justin Trudeau ne sera plus invité, puis on veut pas le voir aux cérémonies du souvenir pour le drame de Polytechnique. D'autres groupes, on pense au NPD, qui disent non, c'est l'approche qu'il fallait faire, il fallait s'assurer que les manufacturiers soient visés. Francis Langlois est avec nous, il connaît ça, les armes à feu. Professeur d'histoire au Cégep de Trois-Rivières. Monsieur Langlois, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Là, vous allez me donner un cours sur les amendements. Là. J'essaie de comprendre ce que ça veut dire exactement. Est-ce que ce sont des amendements plus sévères? Est-ce que c'est moins sévère? Est-ce que les armes d'assaut vont disparaître? Qu'est-ce que je comprends dans tout ça, là?
Donc, le gouvernement resserre effectivement l'encadrement des armes à feu et particulièrement le contrôle de ce que eux appellent les armes d'assaut de style militaire. Donc, effectivement, on va en retirer du marché. Donc, on continue avec la liste là, qui avait été annoncée après la tuerie de porte-à-pic. On la bonifie en ayant une définition qui se base beaucoup plus sur les caractéristiques de fonctionnement des armes plutôt que la longueur du canon ou des choses comme ça. Ceci étant dit, c'est en deçà de ce qu'on avait annoncé lorsqu'on avait mis en place deux amendements là, il y a quelques mois. Évidemment, la façon dont ça avait été fait, là, ça avait été fait de façon un peu cavalière. Là. Mais bon, il faut le dire, la définition qui est proposée, là, les quatre éléments qui sont proposés, sont facilement contournables par l'industrie, les propriétaires et, à la rigueur, comment je pourrais dire, manque de cohérence parce que, bon, ce qu'on veut éliminer, c'est ces armes d'assaut-là du marché canadien, mais on dit finalement que celles qui sont déjà présentes sur le territoire canadien vont rester en circulation. Donc, si elles sont dangereuses dans le futur, je vois pas pourquoi elles seraient pas dangereuses si elles sont déjà la propriété de gens. Donc,
mais quand vous dites que c'est facilement contournable, pourriez-vous me donner un exemple de ça?
Oui, certainement. Donc, on dit par exemple que les armes qui ont un chargeur détachable ne doivent pas avoir été conçues avec un chargeur détachable de plus de 5 munitions. Donc, à partir de 6, c'est interdit. OK.
Ouais.
Maintenant, un chargeur détachable, il n'y a rien qui empêche de s'en procurer un autre de façon tout à fait illégale, ceci étant dit, mais de s'en procurer un autre soit via Internet, soit en l'imprimant ou en modifiant un chargeur déjà existant. Donc ça, c'est une façon de contourner la loi. Puis j'ajoute qu'il y a des compagnies qui produisent des chargeurs. Bon, mais ils produisent des chargeurs qui sont, en guillemets, universels pour certains modèles d'armes. Donc on peut les mettre d'une arme à l'autre, les changer d'une arme à l'autre. Puis bon, évidemment, il y en a qui dépassent le maximum de 5 munitions.
OK. On voit souvent le type d'arme là, dans des tueries aux États-Unis, le AR-15. Est-ce qu'il est déjà banni? Est-ce qu'il est touché par ces amendements?
Oui. Oui, tout à fait. Il va rester. Donc, c'est déjà une arme à autorisation restreinte, mais il avait été banni après la tuerie de porte-à-pic et ça reste dans la catégorie finalement interdite. Là. Oui, effectivement.
OK. L'autre question qui revient beaucoup, parce que moi, j'entends des gens qui sont propriétaires d'armes qui me disent que c'est pour des activités sportives. Dans certains cas, on parlait d'un lobby de la chasse. Est-ce que tout ça tient la route, selon vous?
Ben, je comprends que plusieurs propriétaires d'armes à feu, effectivement, utilisent on parlait d'AR-15, par exemple, donc à des fins sportives, donc récréatives. On va faire du tir à la cible ou du tir de précision, ou des compétitions où l'objectif est de tirer rapidement et précisément. Donc, effectivement, ces gens-là risquent fortement de perdre le droit de posséder ces armes-là. Et donc, ils vont peut-être être obligés de les vendre à un certain prix au gouvernement pour qu'elles soient finalement détruites. Là. Donc, oui, effectivement, ces gens-là vont être affectés. Pour ce qui est de la chasse, je vois pas vraiment ce qu'il y a, en quoi ça va affecter tant que ça les chasseurs, d'autant plus que on laisse maintenant les armes qui risquent d'être éliminées par les quatre caractéristiques là, qui ont été énumérées lundi, on les laisse en circulation. Donc, ça affectera pas, je pense, en tout cas, la vaste majorité des chasseurs. Je pense que qui faisait vraiment peur à certains, c'est que certains modèles très populaires, et ici je pense au SKS par exemple, qui sont utilisés par les chasseurs, mais qui ont été conçus à des fins militaires, c'est ça qui faisait peur à beaucoup de monde, et notamment aux membres des Premières Nations.
OK, et eux vont pouvoir les conserver donc?
En principe, oui. Si on se fie à ce qui a été annoncé lundi, évidemment, là, il y a d'autres négociations et discussions qui sont en train d'être faites au comité, là, mais effectivement, en principe, ça devrait être gardé. Là.
Selon vous, quelle sera, puis là, on spécule, mais quand même, la réaction des manufacturiers? Est-ce qu'ils vont s'ajuster? Est-ce que le marché canadien est à ce point important pour eux? Comment vous pensez qu'ils vont réagir?
Ils vont faire comme ils ont toujours fait, c'est-à-dire qu'ils vont suivre le pointillé de la loi et ils vont mettre sur le marché des modèles qui suivent la loi, mais qui peuvent la contourner ou profiter des faiblesses et des trous dans la loi pour mettre sur le marché des modèles qui vont satisfaire leur clientèle, mais qui risquent d'avoir des caractéristiques similaires à ce qui est supposé être retiré. Là, ils ont fait ça aux États-Unis dans les années 90. Ils l'ont fait jusqu'à présent sur le marché canadien. Donc, je vois pas pourquoi ils ne le feraient pas là, dans le futur.
Si je résume votre propos, ça veut dire qu'ils vont vendre légalement des armes en respectant la loi canadienne, mais des armes qu'on peut modifier un peu en allant sur le marché noir puis ou en complétant de façon illégale.
Soit de façon illégale ou en profitant des trous. Comme je vous dis, la loi est facilement contournable et à mon avis, elle n'est pas complète. Je pense qu'on aurait dû faire des définitions mieux ficelées que celle-ci.
Parfait. Merci beaucoup, M. Langlois. Vraiment apprécié.
Ça m'a fait plaisir, M. Arcand.
Au revoir. Francis Langlois est membre associé à l'Observatoire des États-Unis de la chaire Raoul Dandurand et professeur d'histoire au cégep de Trois-Rivières, parce que sérieusement, c'est assez complexe. Et je dois vous dire qu'entre-temps, puisqu'on parle d'armes à feu, il y a une fusillade dans une école, et c'est pas aux États-Unis, c'est en Serbie. 8 enfants dans une école primaire, un agent de sécurité ont été tués. Ça s'est produit donc à la rentrée des classes, ou presque, là, c'était très tôt ce matin, à Belgrade. Il y a 6 enfants et un professeur qui ont été blessés aussi, qui ont été traités à l'hôpital. Et le suspect serait âgé de 14 ans. Et de ce qu'on comprend, il aurait eu en sa possession une arme qui appartiendrait à son père. Mais tout ça reste bien sûr à valider.
L'essentiel de Paul Arcand.
Très bien. De Gazette nous apprend ce matin, c'est quand même un petit peu étonnant, peut-être, de voir que des médecins quittent les salles d'urgence. Évidemment, pas tous les médecins, puis pas toutes les salles d'urgence, mais un certain nombre de médecins retournent vers les GMF ou retournent travailler en cabinet parce que la pression est devenue trop forte. On a vu, on a beaucoup parlé des infirmières, mais c'est autour de médecins, on parle de Royal Victoria, puis on voyait tous comme moi quand il y a surcapacité, par exemple, à l'urgence, à 140-200%. Donc, départ de ces médecins. Et ça a un effet direct sur ceux qui restent. J'en parle avec le docteur Gilbert Boucher, qui est urgentologue et le président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Docteur Boucher, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, est-ce que c'est vrai qu'il y a des médecins là qui n'en peuvent plus et qui quittent l'urgence?
Effectivement, malheureusement, depuis 3-4 mois, c'est annoncé. Là, on le sait, l'automne était très difficile dans nos salles d'urgence. On parle beaucoup des infirmières, des préposés, des autres soignants. Puis malheureusement, c'est le continuum. Là, et maintenant, on a des médecins qui quittent. C'est un nouveau phénomène, je vous dirais, là, à travers la pandémie. Bon, il y avait des départs, il y avait des médecins qui étaient malades. Les médecins, on serrait la ceinture, les choses allaient bien. Mais là, depuis 2 mois, c'est carrément, on manque de médecins, on peut plus en recruter. La pratique est très difficile, puis on est comme les autres soignants de la santé, là, comme vous le mentionnez, il y a du travail ailleurs, puis les gens trouvent ça trop difficile à l'urgence, et puis il y a trop de risques en ce moment.
OK. Je ne sais pas si vous avez pu parler, échanger avec des médecins qui ont quitté. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Je comprends la charge de travail et tout ça, là, mais est-ce qu'ils ventilent un peu avec vous?
Tout à fait. On en a parlé dans les derniers mois, là, comme je vous le dis, à l'automne, ça a été très difficile. Ça l'est encore aujourd'hui. On parle moins des urgences. Les statistiques sont mieux. Mais la pratique à tous les jours, là, on manque de soignants. Vous savez, quand on manque d'infirmières, de préposés pour s'occuper des patients, les médecins, on en fait plus. Les salles d'attente, les patients attendent. C'est pas facile pour la population. Et malheureusement, c'est pas facile pour nous aussi. Puis il y a un danger certain, là, quand les salles d'attente sont bondées, quand on fait de la médecine de corridor, quand on a beaucoup de patients admis à l'urgence qui nous empêchent de voir les prochains patients, ça met un stress supplémentaire. Puis malheureusement, en ce moment, comme je vous dis, c'est un nouveau phénomène qu'on n'a pas vu depuis quelques années. Là, il y a plusieurs salles d'urgence où est-ce qu'il manque plusieurs médecins en ce moment.
Et quand vous dites on n'est pas capable d'en recruter, c'est que personne veut aller travailler à l'urgence?
C'est un mélange de deux choses, je vous dirais. Premièrement, oui, qui voudrait commencer une pratique et venir à l'urgence dans les conditions en ce moment? Mais c'est sûr qu'il y a des règlements, là, les PEM, les PEM, qui font que le recrutement est très difficile. Ils ont besoin de monde dans les GMF. On le sait, là, le gap, c'est tous les accès à la première ligne, c'est important. Mais malheureusement, là, dans nos salles d'urgence, on a aussi besoin de médecins. Puis ça a été très difficile dans les dernières années, mais comme je vous dis, là, depuis quelques mois, il y a malheureusement des médecins qui décident d'aller ailleurs. Puis ça va nous faire mal. En ce moment, on serre la ceinture. On espère que la tendance va se renverser bientôt.
OK. Une question qui va vous paraître étrange, mais moi, je l'entends souvent. Quand je suis un patient, là, puis que j'attends à la salle d'urgence, il y a combien de médecins qui travaillent à l'urgence? Je sais pas, moi, Charles Lemoine, un samedi soir, un jeudi soir à la Cité de la Santé, y a-tu un médecin, deux médecins, trois médecins urgentologues? Ils sont combien?
Ça dépend beaucoup des volumes. Donc, la plupart des urgences, vous allez avoir, quand vous parlez des grosses urgences, Charles Lemoine, c'est intéressant que vous parliez de ça. J'ai reçu des messages d'eux de la semaine dernière. Alors, ils ont souvent 6 à 7 médecins sur le plancher, mais pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y avait 3 médecins qui étaient attitrés à la salle d'attente. Il y avait effectivement 70 patients dans la salle d'attente. Il y avait seulement 3 salles pour voir des patients. Alors, c'est là que le bas blesse. C'est là que les médecins ça les décourage un peu. C'est pas toujours en augmentant le nombre de médecins qu'on est capable de voir plus de patients. Des fois, c'est le cas. Des fois, il n'y a pas assez de médecins pour qu'est-ce qui se passe, mais on peut pas non plus toujours. Il y a des journées qui sont un petit peu plus tranquilles des fois. Mais là, je vous dirais qu'en ce moment, le plus gros problème, c'est l'espace pour voir les patients, les soignants pour les aider. Après que le médecin ait vu le patient, il faut que l'infirmière fasse des tests, il faut les envoyer en radiologie, il faut leur donner des traitements. C'est souvent là que les choses stagnent.
OK, mais vous manquez de salles d'examen parfois, puis vous manquez de personnel pour faire le suivi.
Effectivement, non, c'est la pratique. Quand on parle de partir, là, de quitter la pratique des urgences, M. Arcand, c'est vraiment parce qu'il y a un ensemble de facteurs. On en parle depuis longtemps, mais c'est pas juste la surcapacité. C'est pas juste le fait que beaucoup de patients aux urgences, c'est le fait qu'on manque de personnel, on manque de soutien, puis malheureusement, les médecins qui me parlent, qui quittent, c'est souvent par rapport à ceux qui disent, ils disent, écoutez, on est tout seul un petit peu pour s'occuper de la salle d'attente, puis ils trouvent ça trop difficile en ce moment.
OK. L'été va ressembler à quoi, selon vous?
On n'annonce pas de bris de service en ce moment. C'est juste que je peux vous dire qu'il y a plusieurs médecins qui vont être obligés de travailler plus que prévu. À court terme, on s'arrange. C'est comme ça que le système est fait. Quand un groupe de médecins est responsable de couvrir les cadres d'une urgence. Mais on le sait qu'à long terme, quand il y a plusieurs médecins qui travaillent plus que sont supposés, si on veut, les problèmes de burn-out, de fatigue. On le sait, le vendredi dernier, les psychiatres ont fait une journée sur soigner les soignants. Faut pas oublier que dans tout ça, la population souffre à temps, mais on a besoin de nos soignants pour être capable de s'occuper d'eux, malheureusement.
OK, j'ai une autre question. Vous êtes membre, en tout cas, je présume, là, de la cellule de crise. Est-ce que ça donne des résultats? Il y a eu des mesures? Comment ça se passe?
Il y a eu plusieurs mesures, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. C'est pas le problème, c'est l'adhérence dans tous les centres hospitaliers, c'est très variable. On le sait, là, l'accès au GAP, la première ligne, ça a quand même été beaucoup amélioré avec le 8-1-1. C'est pas parfait, les choses se sont quand même améliorées. En ce moment, il y a beaucoup, on a beaucoup de résistance au niveau des équipes de vigie, le flow hospitalier là, dans les hôpitaux. On se rend compte qu'il y a énormément de patients qui passent plus que 10 jours hospitalisés dans nos hôpitaux. Ça devrait pas. On devrait en avoir beaucoup moins. Alors, il y a des choses qui peuvent être faites pour améliorer le flow, parce que c'est sûr que pour aider les urgences, la chose qu'on peut faire, la chose la plus efficace, c'est d'hospitaliser les patients qui en ont besoin, puis de pas les laisser à l'urgence. Alors, le flow hospitalier, là, tous ces patients-là, là, dans l'hôpital, les équipes de coordination médicale, s'attardent à se mettre en place. Puis bon, on travaille encore sur ça à la cellule de crise, parce qu'on sait que c'est pas parfait en ce moment.
OK, mais là, vous dites 2 choses importantes, là. La première, là, ce que vous me dites, c'est que c'est très variable d'un centre hospitalier à l'autre.
Effectivement, malheureusement. Puis les centres qui ont des problèmes, c'est souvent des centres qui tardent à mettre en place les recommandations de la cellule de crise, effectivement.
OK. Puis la deuxième chose que vous dites, c'est qu'il y a de la résistance. Mais là, j'ai pas trop compris de qui exactement, là.
C'est différents niveaux. C'est sûr que c'est pas toujours facile là, de mettre des équipes en place. On va prendre l'hôpital juif qui a un très beau système avec un centre de commandement, avec une direction qui est engagée, les médecins, le personnel soignant est là. Faut pas oublier qu'on parle de toutes ces mesures-là. Le plus gros problème en ce moment, c'est le manque de ressources humaines. On parle des médecins ce matin, mais je peux vous dire que dans toutes les urgences à qui on parle, il n'y a pas une semaine qu'il n'y a pas des personnes expérimentées de l'urgence qui quittent. On les remplace par des nouveaux, mais ils n'ont pas l'expérience des anciens. Alors ça met un frein à plusieurs des mesures, mais il faut continuer parce que ça, on peut pas continuer à toujours se battre. Là, on le sait, dans les urgences, il y a deux semaines, il y a eu une vague de gastro puis de virus. Puis bon, tout a été embourbé pendant 10 jours. Ça a été extrêmement difficile. On peut pas vivre ça tous les mois. Il faut trouver des meilleures solutions.
OK, mais je cherche à savoir d'où vient la résistance. Je comprends ce que vous dites, là, le problème de main-d'œuvre et tout ça, mais qui résiste et pourquoi?
Je vous dirais qu'il y a une résistance, c'est difficile à dire, puis c'est pour ça que si c'était une résistance, on réglerait le problème. C'est pour ça qu'il faut en discuter à la cellule de crise. Là, on le sait, il y a des PDG, des sous-ministres, des gestionnaires, des gens terrain. Il faut en jaser entre nous parce qu'effectivement, la résistance vient de plusieurs niveaux. Ça dépend des centres hospitaliers. Souvent, il faut le voir, là, il manque de personnel. On a des lits fermés, mais il faut faire mieux avec ce qu'on a.
OK, mais là, vous voulez pas me dire, je veux pas des noms, là, mais c'est quoi? C'est des gestionnaires qui veulent pas modifier leur pratique, qui gardent des patients plus longtemps? Des collègues médecins qui veulent pas sortir les patients? C'est quoi?
Ben, je pense que vous avez une liste de choses, puis comme vous le mentionnez, chaque hôpital a ses problèmes propres. Il y en a qui des équipes qui sont pas mises en place. Il y a des endroits où est-ce qu'on manque un client de lit. Il y a des fois qu'il y a des priorités qui sont différentes que des patients à l'urgence. Des fois, il faut gérer avec les médecins, là, comment est-ce qu'on va hospitaliser les patients, les retours à la maison, qu'est-ce qui est sécuritaire. Alors, il y a plusieurs choses qui sont à mettre en place, puis je sais que vous aimeriez ça avoir un responsable
non.
De ça, mais si c'était le cas, ça serait très facile
non,
de régler.
Je pense pas qu'il y a un responsable.
Oui, non, mais c'est pour ça que ça prend des choses comme la cellule de crise. Quand on se rend compte, c'est qu'il y a certains centres hospitaliers, effectivement, c'est la haute direction, c'est le PDG qui sont pas engagés. Il y en a d'autres places qui sont engagées, mais les gestionnaires sur le terrain, effectivement, ont d'autres priorités. Des fois, les médecins, ils pourraient optimiser leur pratique aussi. Alors, c'est un ensemble de choses, mais il faut s'attaquer au problème pour vraiment décortiquer ça, parce qu'il faut qu'on mette en place, il faut qu'on améliore le flux hospitalier. On est capable de faire mieux. Il y a trop de patients qui passent plus que 10 jours dans nos hôpitaux en ce moment.
Parfait. Merci, Dr. Boucher. Bonne journée.
Merci,
au revoir, Gilbert Boucher et urgent adoc d'abord, et président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.